Radio Campus Rennes, je suis au Forum Libé, donc, qui se déroule à Rennes sur la question du pouvoir et de la responsabilité. Je suis avec Jean-Michel Le Boulanger, vice-président du Conseil régional de Bretagne, qui vient de débattre sur la question de quand la culture locale devient globale. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la culture bretonne ?
La culture bretonne, elle a toujours été liée par un mécanisme complexe de relations avec d'autres formes de culture. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est évidemment ça. Le développement de la culture bretonne se fait et se fera par l'enrichissement avec d'autres formes de culture. Il y a là des jeunes artistes qui sont intervenus et qui investissent dans le rap aujourd'hui. Ils sont enracinés dans la terre de Bretagne, ils ont des références culturelles bretonnes, mais ils s'ouvrent à d'autres formes de culture. Et c'est très riche, évidemment, parce que la richesse vient de l'acceptation de la diversité et de la construction d'une relation. Et la culture bretonne, elle était très territorialisée, très enracinée. Elle l'est moins aujourd'hui, mais elle le reste cependant, et elle continue son évolution, qui est un long processus, qui n'est jamais figé, qui n'est pas un état définitif. Et ça, c'est tout à fait magnifique. Enracinement et ouverture, attachement et arrachement, d'une certaine manière. Bref, le dialogue, la relation, et ça, c'est la richesse.
La Bretagne est connue notamment par sa langue qu'elle cherche à défendre, à remettre en valeur parce qu'il y a un passé douloureux là-dessus. Donc quel état des lieux peut-on faire de la langue bretonne aujourd'hui ?
C'est un état des lieux qui peut être tout à fait pessimiste parce que les locuteurs ne sont pas assez nombreux et les moyens de la formation, le nombre de professeurs n'est pas suffisant pour permettre un nouveau développement de cette langue. C'est un enjeu, et c'est un enjeu essentiel, parce que la diversité dont on parle, elle se nourrit de singularités fortes, et les langues, comme la langue bretonne ou comme la langue gallo, sont des éléments de cette singularité. Et donc ça, c'est un enjeu pour les générations qui viennent. Continue-t-on à abandonner ce qui a construit une vieille singularité qui exprimait une manière particulière d'être au monde? L'enjeu, il est là. Donc nous souhaitons évidemment et nous mettons beaucoup de moyens en place afin que l'aventure de la langue de Bretagne, dans des formes adaptées à une civilisation urbaine et tertiaire, que l'aventure des langues de Bretagne puisse perdurer. Mais c'est un enjeu majeur.
Oui, et vous faites bien de parler des langues, puisque ici nous sommes à Rennes, et ma famille rennaise, c'est le gallo dans lequel elle a baigné. On a tendance à oublier que le breton n'appartient pas à Rennes à l'origine, quoi, que c'est le gallo. Est-ce qu'on fait vraiment quelque chose aussi pour défendre le gallo ?
Oui, alors justement, c'est une décision. Nous étions hier en session du Conseil régional de Bretagne, et c'est une question qui était à l'ordre du jour. La politique en faveur des langues de Bretagne, en faveur du breton, qui a été beaucoup développé hier, et en faveur du gallo, qui sera développé dans une session ultérieure du Conseil régional, peut-être au mois de décembre, ou peut-être au début 2013. Mais vous avez raison de le dire. En fait, il y a trois langues, évidemment, en Bretagne. Il y a le français, qui est une langue aussi, évidemment, et éminemment parlée en Bretagne. Il y a deux langues qui viennent de très loin, le gallo et le breton. Moi, ce sur quoi je suis très attaché, c'est d'affirmer l'égale dignité des langues. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce mépris qui a été affiché pendant longtemps avec des langues qui touchaient à l'universel et des langues qui ne seraient que locales, que populaires et qui ne mériteraient pas, en quelque sorte, l'enseignement. Ce ne seraient pas des formes éminentes de culture. Si, il y a une égale dignité de toutes les langues. Et le gallo est une langue, le breton est une langue, et évidemment, la langue française est une langue, c'est celle que j'emploie à l'heure où je vous parle.
Quelqu'un a soulevé dans la pièce, dans la salle du débat, a soulevé la question aussi de l'accès à la culture en parlant du méthos où tout était payant. Donc est-ce que pour vous l'accès à la culture passe aussi par la gratuité ? Est-ce qu'il faut développer des manifestations culturelles gratuites ?
Pas forcément. Pour autant, je ne dis pas qu'il faut que tout soit cher. Et si justement l'ensemble des collectivités territoriales intervient dans les budgets de tous les festivals, c'est justement pour baisser les prix. Si les organisateurs de Mythos pouvaient baisser les prix, ils le feraient. Le problème, c'est qu'il y a des réalités économiques, ils sont confrontés à des marchés, ils sont confrontés à des difficultés budgétaires, et le prix qu'ils demandent à la personne qui fréquente leur festival est évidemment le prix nécessaire pour la survie même de la structure. C'est un combat, ça aussi c'est un combat permanent. Les subventions des collectivités territoriales permettent de baisser le prix d'entrée. Pas toujours suffisamment, mais néanmoins de le baisser.
Et aussi, je voulais venir aussi sur quelque chose que vous avez abordé sur les nouvelles technologies. Vous expliquiez qu'on était à l'heure d'Internet et qu'on pouvait vous donner l'exemple de la bande de Gaza ou du 11 septembre, où on pouvait savoir à la minute ce qui se passait, sans pour autant savoir ce qui se passait à côté. Doit-on être effrayé par donc, cette nouvelle technologie ? Est-ce qu'on peut imaginer de les utiliser différemment ?
Il ne faut pas être effrayé par les nouvelles technologies, elles sont aussi une ouverture et une formidable richesse. Pour autant, il ne faut pas être angélique et naïf devant l'évolution des nouvelles technologies, parce que pour beaucoup, elles sont dans les mains de capitaux importants, mondialisés, qui opèrent une sélection. Les informations, vous parliez des informations du 11 septembre que nous recevions. Oui, nous étions connectés à New York heure par heure pendant quelques jours, comme nous avons été connectés avec l'Asie du Sud-Est minute par minute après le tsunami, ce qui en termes d'information des citoyens est nécessaire. Mais je prenais l'exemple du Congo, où dans les guerres récentes, il y a eu 4 millions de morts et dont on ne parle jamais. C'est-à-dire qu'il y a des angles morts organisés par des chaînes de télévision. Et dans ces angles morts tombe tout ce qui ne fait pas recette, en quelque sorte. Ce sont des chaînes, ce sont des entreprises privées, et il y a des images qui font vendre et des images qui ne font pas vendre. Et cette hiérarchie-là, elle est terrible parce qu'elle pose la question fondamentale du sens. La hiérarchie des informations que nous donnons, qui sont données, qui sont livrées, qui sont digérées par les gens, elle est le fruit d'une volonté d'acteurs économiques aussi. Et il ne faut jamais l'oublier.
Et pour terminer, donc, votre contradicteur, c'était Olivier Poivre d'Arvor, actuellement directeur de France Culture. Mais finalement, il n'était pas tant que ça votre contradicteur, parce que vous êtes assez d'accord sur la question de la diversité de la culture.
Oui, c'était une contradiction qui n'en était pas une, effectivement, parce que sur le fond, nous sommes extrêmement proches. Alors, dans le cadre de débats de ce type, on surjoue parfois un petit peu les différences, mais ça ne résiste pas souvent et ça ne vous a pas échappé. Sur le fond, nous étions très souvent d'accord, bien sûr.
Eh bien, merci.
Merci.